Chapitre 7. À Southey. Tenir la maison propre, répondre à la sonnette, faire mes modestes emplettes, qui se chiffraient plutôt par penny que par shillings, parachever ma simple installation, c'était autant qu'il fallait pour que le temps ne me pesât guère. La sensation est merveilleuse d'avoir, pour la première fois, une maison à soi, si humble soit-elle. Je prodiguai mes attentions à la chambre de devant afin de la rendre possible pour la clientèle. Quant à la chambre de derrière, je la meublai d'une malle et d'un tabouret. L'intérieur de la malle me servait de garde-manger. Aux heures des repas, le dessus me tenait lieu de table. Un bec de gaz éclairait la pièce. Je fixai au mur une sorte de potence qui me permit de suspendre sur la flamme une poêle à frire. Par ce système, je cuisais très facilement mon bacon et je sus vite comment, sur le poids d'une livre, on en prélève un lot prodigieux de tranches. Quand on a du pain, du bacon, du thé, un cervelas de temps en temps, que souhaiter d'autre? On vit, ou du moins, l'on vivait alors parfaitement avec un shilling par jour. J'avais obtenu à crédit d'une maison de gros un dépôt de produits pharmaceutiques. Je les avais également rangés dans ma chambre de derrière, sur les côtés. Dès le principe, il me vint quelques clients de hasard, tous de la classe pauvre, les uns désireux de nouveautés, les autres mécontents de leur médecin, le plus grand nombre endettés envers lui et gênés d'avoir à l'affronter. Je leur donnais ma consultation, je leur vendais mes remèdes et ce petit commerce me payait ma nourriture. Heureusement, car je n'avais que ce moyen de vivre, ayant juré de ne pas toucher aux 10 pièces d'or qui représentaient le loyer de mon logement. Il y eut des moments où, faute de pouvoir acheter un timbre-poste, je dus faire attendre mes lettres. Mais les pièces d'or restèrent toujours intactes. J'habitais une rue très animée, entre une église et un hôtel. J'y passais sans ennui mes journées. Assis dans mon cabinet de consultation, près de la fenêtre, derrière des rideaux de couleur sombre qui me cachaient à la vue du dehors, je regardais le va-et-vient de la foule où je lisais un livre. Car j'avais prélevé sur mes modiques ressources le prix d'un abonnement à un cabinet de lecture. En dépit, ou peut-être à cause d'une alimentation parcimonieuse, je me sentais extraordinairement disposé et alerte. Le soir venu, quand je n'avais plus à espérer de clients, je fermais mon logis et, pour dépenser un peu de mon énergie, je m'en allais faire une marche de plusieurs milles. Avec tous les souvenirs qu'il évoque, Southey est un lieu de gloire. Si, aujourd'hui, j'avais à vivre dans une ville qui ne fût pas Londres, c'est là, dans ce quartier élégant de Portsmouth, que je voudrais retourner. L'histoire du passé y rejoint l'histoire du présent. Le torpilleur nouveau y passe à toute vitesse devant le vieux Victoré, et le même pavillon blanc flotte sur l'un et sur l'autre. Les coulevrines et les sacres du temps d'Élisabeth se peuvent encore voir sur la même promenade qui vous mène jusqu'à la grosse artillerie des forts. Tout cela est d'un grand charme pour quiconque a le sentiment de l'histoire, et ce sentiment, je l'ai sucé avec le lait maternel. Je le répète, l'idée ne m'était jamais entrée dans la cervelle que la littérature dût me fournir un métier, ni me donner plus qu'un peu d'argent de poche. Mais déjà, elle devenait un facteur décisif de mon existence. Car je n'aurais pu persévérer dans la médecine, à moins de mourir de faim, sans les quelques livres sterling que m'envoyait M. Hogg et qui me permettaient de consacrer à ma nourriture tout le reste de mes petits gains. Je me suis demandé plus tard comment je n'avais pas contracté le scorbut, car je ne mangeais que des conserves et n'avais pas les moyens de me faire bouillir des légumes. Cependant, je ne me plaignais pas, je ne voyais là rien d'insolite et n'avais aucune appréhension particulière de l'avenir. À cet âge, tout fait l'effet d'une aventure, et j'éprouvais un plaisir toujours renaissant à me savoir chez moi. Ayant eu la faiblesse, une fois, de répondre à une annonce par laquelle on demandait un médecin pour aller au Terai, dans le Bengale, soigner les coulis des plantations de thé, j'attendis fiévreusement une réponse à mon offre. La réponse ne venant pas, je me renfonçai dans ma patience et mes espérances. Devant moi, d'ailleurs, s'ouvrait une voie de succès que je n'avais qu'à suivre. Mes parents catholiques m'avaient envoyé des lettres de recommandation pour l'évêque et l'on m'assurait qu'il n'y avait pas dans la ville d'autres médecins catholiques. Mais j'avais fait si complètement table rase de mes premières croyances que je ne me reconnaissais plus le droit d'en user à des fins matérielles. Je brûlais mes lettres de recommandation. Le temps passé, je n'avais près de moi personne avec qui échanger deux mots, et, pensant à ma famille d'Édimbourg, je me demandais pourquoi, puisque je disposais de 8 pièces habitables, un de mes frères ou sœurs ne viendrait pas me tenir compagnie. Mes sœurs étaient placées comme institutrices ou s'apprêtaient à l'être. Restait mon petit frère Inès. En me rejoignant, non seulement il me rendrait service, mais il allégerait les charges de ma mère. Ainsi fut-il décidé. Je vis, un beau jour, m'arriver un gamin en culotte courte qui, à 10 ans, devint mon camarade. Je n'en aurais pu avoir de plus rayonnant, de plus gai. En quelques semaines, nous eûmes organisé notre vie, d'autant que je lui avais trouvé une bonne école de jour. Les soldats de Portsmouth faisaient sa joie. Ses goûts naturels présageaient sa carrière future. Il était né, administrateur et chef. J'étais loin de me douter qu'il se distinguerait dans la plus grande des guerres et mourrait à la fleur de l'âge, mais témoin de la victoire complète. Dès l'époque dont je parle, nous avions, lui et moi, des idées très militaires. Je me rappelle notre attente commune devant les bureaux d'un journal local pour connaître les résultats du bombardement d'Alexandrie. Ces pages à peine tracées, je retrouve, parmi de vieux papiers, une lettre que, de sa main d'écolier encore maladroite, il écrivait à notre mère. Elle est du mois d'août 1882 et constitue un témoignage indépendant sur la singularité de notre vie à cette époque. Les clients sont nombreux. Nous avons fait 3 shillings cette semaine. Nous avons vacciné un bébé et mis la main sur un phtisique. Aujourd'hui, un bohémien qui vendait des paniers s'est arrêté devant chez nous avec sa charrette. Après qu'il eut sonné 2 ou 3 fois, Arthur lui a crié « Allez-vous-en !» Mais l'homme a sonné de nouveau. Alors je suis descendu à la porte, j'ai ouvert la boîte aux lettres et je lui ai crié par la fente de s'en aller. Il s'est mis à jurer, à dire qu'il voulait voir Arthur. Tout ce temps-là, Arthur croyait que la porte était ouverte et me criait « Ferme la porte !» Alors je suis remonté et j'ai dit à Arthur que l'homme le priait de descendre. Nous sommes descendus et nous avons vu que l'enfant du bohémien avait la rougeole. Après tout, ça fait 6 pence de gagner et c'est quelque chose. Je me rappelle fort bien l'incident. Le changement de ton dut vraiment être comique qui fit tout à coup du maître de logis importuné par un vagabond, le plus empressé des médecins, appâté par un espoir d'honoraire. Toutefois, si j'ai bonne mémoire, ce fut le bohémien qui reçut et moi qui donnai la pièce de 6 pence. Pendant quelque temps, Inès et moi vécûmes entièrement seuls. Nous faisions, à nous deux, toutes les corvées domestiques et le soir, pour nous maintenir en forme, nous entreprenions de longues promenades. J'eus un jour une illumination, je publiai une annonce par laquelle j'offrais la disposition de mon rez-de-chaussée à qui voudrait bien, en retour, se charger de notre ménage. J'arrêtai mon choix sur 2 dames d'un certain âge qui se prétendaient sœurs, mais fit revoir ensuite que ce n'était là qu'une prétention. Avec elles, la maison prit comme un air civilisé, tout commença de marcher mieux. Cependant, la brouille se mit entre les 2 dames, l'une s'en alla, l'autre ne tarda pas à la suivre. La première m'ayant semblé la plus active, je me mis à sa recherche et la retrouvai. Elle avait pris un petit magasin. Comme elle en payait le loyer à la semaine, l'affaire était aisément arrangeable. Mais que faire de la marchandise? La dame se désolait. « J'achète tout, lui dis-je, en homme qui ne compte pas. » Il m'en coûta exactement 15 shillings et 6 pence, moyennant quoi je m'approvisionnai pour plusieurs mois d'allumettes, de cirage et d'autres articles similaires. Mais dès lors, on nous fit la cuisine, et notre vie devint tout à fait normale. Les mois succédaient aux mois, il me venait un client de ci, un client de là, ce qui finit par former le noyau d'une petite clientèle. Tantôt c'était la victime d'un accident, tantôt un malade à traiter d'urgence ou quelqu'un de nouveau venu à Southie ou un autochtone en délicatesse avec son médecin. Je me produisais le plus possible, sachant qu'une plaque de cuivre n'est pas en soi une attraction et qu'on a besoin de voir l'homme qu'elle cache. Certains de mes fournisseurs me donnèrent leur pratique en échange de la mienne et la mienne était si mince que, vraisemblablement, je gagnais au marché. Je sais un épicier dont les crises d'épilepsie représentaient pour moi le thé ou le beurre. Le pauvre diable n'eut jamais soupçonné la confusion de mes sentiments quand j'apprenais qu'il avait une nouvelle crise. Je soignais une vieille dame dont la haute stature et le visage chevalin s'alliaient à une extrême dignité de porc. Assise à la fenêtre de son petit logement, on eût dit le portrait d'une grande dame de l'Ancien Régime, mais de temps à autre, dans un accès de démence, elle faisait avec ses assiettes des ricochets sur les passants. J'étais la seule personne qui, en de tels moments, eut quelque influence sur elle, car elle était de nature hautaine et aristocratique. Un jour qu'elle semblait près de m'envoyer, à moi aussi, une assiette au visage, je la calmai en affectant une dignité aussi sévère et menaçante que la sienne. Elle avait des trésors d'art qu'elle m'empilait sur les bras quand elle était ce que, poliment, j'appellerais souffrante, mais qu'elle me réclamait sitôt qu'elle allait mieux. Dans une circonstance où elle s'était montrée particulièrement fâcheuse, je gardais, malgré ses protestations, une belle coupe de lave. Je l'ai toujours. Il est heureux que le métier de médecin ait ses côtés drôlatiques, car il en a beaucoup de déprimants. La plupart des hommes n'appliquent jamais leur faculté de raisonnement à l'idée religieuse. Sans cela, ils auraient peine à concilier ce que voit un médecin avec l'idée d'une providence miséricordieuse. Si l'on ne considère pas cette vie comme l'expiation d'une vie antérieure, si l'on croit que la mort finit tout et qu'avec elle s'achève notre unique aventure, impossible d'admettre la bonté ou la toute-puissance de Dieu. Ainsi, du moins, pensais-je à l'époque, et cela faisait de moi un matérialiste. Je sais aujourd'hui que c'était jugé d'une histoire sur le premier chapitre. Qu'on me permette un exemple. Une pauvre femme m'avait mandé auprès de sa fille. Sur l'un des côtés de l'humble salon où j'entrais, il y avait un petit lit pliant, et je compris à un geste de la mère que la malade était là. Je pris une bougie, m'approchai du lit et me penchai, m'attendant à voir une enfant. Ce que je vis, ce fut une paire d'yeux bruns, mornes, chargés de dégoût et de souffrance, et qui exprimèrent, en me regardant, une espèce de ressentiment. Je n'aurais pu dire l'âge de cette créature. Ses longs membres amaigris étaient repliés, tordus, sur la couche étroite. Son visage, parfaitement lucide, respirait la malveillance. J'entraînai la mère à l'écart et je l'interrogeai. « Une enfant de 19 ans, sanglota-t-elle. Ah, si seulement Dieu voulait la reprendre !»« Quelle vie pour ces deux infortunés, et qu'on a de mal, en présence de tels spectacles, à accepter aucune des explications banales de l'existence !» La carrière médicale est semée de dangers et de trappes, il faut que la chance y joue son rôle. Faute de chance, bien des hommes de valeur s'y sont perdus. Je fus appelé un jour au chevet d'une dame qui souffrait apparemment de dyspepsie. Le cas était douloureux, nul symptôme n'indiquait qu'il fût autrement grave. Je rassurai donc la famille, parlai d'un mal bénin, et m'en fut préparé une potion de bismuth après avoir, chemin faisant, expédié une ou deux visites. À mon retour chez moi, je trouvai, m'attendant, un messager chargé de m'apprendre que la dame était morte. C'est une de ces choses qui peuvent, en tout temps, arriver à tout médecin. Je n'en subis pas le contre-coup, l'humilité de ma situation me préservait des atteintes, et l'on ne saurait vous faire perdre une clientèle qui n'existe pas. La dame était morte d'un ulcère de l'estomac. C'est un mal pour lequel on ne connaît point de diagnostic. Il avait rongé la paroi stomacale et, sitôt après mon départ, crevé une artère, d'où s'était ensuivie une hémorragie mortelle. Aucune intervention n'eut sauvé la dame et les siens s'en rendirent compte, je crois. J'avais, la première année, gagné 150 livres. J'en gagnai 250 la seconde et parvins lentement au chiffre de 300 que je ne dépassai jamais comme médecin en 8 années de pratique. La première année, quand je reçus ma feuille d'impôt sur le revenu, je la garnis pour montrer que je n'étais pas taxable. On me la renvoya avec la mention « tout à fait insuffisant » écrite en travers de la marge. « Sommes entièrement d'accord », écrivis-je moi-même au-dessous, et, à mon tour, je renvoyai la feuille. Cette petite audace me valut de comparaître devant les répartiteurs. Je leur apportai mes livres de comptes. Ils n'en purent rien tirer, non plus que de moi. Et nous nous séparâmes avec des compliments et des rires. En 1885, mon frère me quitta pour entrer dans une école du Yorkshire. Je me mariai sur ces entrefaites. Une veuve, Madame Hawkins, appartenant à une famille du Gloucestershire, était venue à Southey avec ses deux enfants, une fille qui était charmante et un fils. La maladie du fils nous mit en rapport. Il avait été brusquement et violemment frappé de méningite cérébrale. Les trois personnes logeaient en garnie. Devant l'incommodité d'une telle situation, j'offris d'aménager chez moi une chambre pour y soigner le pauvre petit. Son cas était mortel. En dépit de tout ce que je pus faire, il succomba au bout de quelques jours. Cette mort sous mon toit n'alla pas, naturellement, sans m'occasionner bien des désagréments et des soucis. Ma position n'eût pas été commode si, par prévoyance, la veille même, je n'avais prié un confrère de venir voir le malade. Naturellement, les obsèques partirent de chez moi. Il va sans dire que la famille fut désolée des ennuis auxquels je m'étais bénévolement exposé. La sympathie s'en mêla, nos relations prirent un tour d'intimité, si bien qu'enfin, Miss Hawkins accepta de partager mon sort. Nous nous mariâmes le 6 août 1885. Impossible pour un homme de trouver une compagne plus aimable et plus douce. L'ombre d'une triste maladie devait, à quelques années de là, venir traverser notre union. Mais ce m'est une consolation de penser que, durant tout le temps de notre vie commune, aucun dissentiment sérieux ne troubla notre affection et tout le mérite en revient à la philosophie tranquille de ma femme qui sut endurer avec une souriante patience non seulement l'épreuve d'un mal long et cruel, mais les vicissitudes ordinaires de l'existence. Si elle épousa un médecin sans le sou, du moins, et je m'en réjouis, elle vécut assez pour connaître les satisfactions et les aises que le succès apporte. Elle avait un petit revenu personnel, grâce à quoi notre train de ménage put s'établir de telle manière qu'elle connut tout de suite un bien-être décent, à défaut de luxe. Sous bien des rapports, mon mariage marqua un tournant de ma vie. Un célibataire, surtout quand il a, comme moi, roulé un peu de tous les côtés, s'abandonne aisément à des habitudes bohèmes. Je ne puis considérer avec quelque satisfaction morale mes années d'alors. J'étais dans une vallée de ténèbres. J'avais renoncé à me buter continuellement le front contre ceux qui me semblaient un mur impénétrable. Je me résignais à l'ignorance touchant l'affaire capitale de la vie. C'est une traversée lugubre que celle que l'on fait sans avoir aucune idée du port où l'on va. J'avais repoussé comme inutile les vieilles cartes de bord et je désespérais d'en trouver une nouvelle qui m'aidât à gouverner dans une direction parfaitement claire et non point vers les brouillards que voyaient en avant de nous tous mes pilotes, Huxley, Mill, Spencer et les autres. Cette attitude mentale, je l'ai très exactement retracée dans mes lettres de Sark Munro. Une lueur d'aube, encore indécise et capricieuse, allait bientôt m'apparaître. Le temps allait se charger de lui donner plus d'étendue et d'éclat. Jusque-là, je n'avais guère porté d'intérêt qu'à ma carrière médicale. Mais une vie plus régulière et le sentiment plus fort de mes responsabilités, en même temps que l'évolution naturelle de mon cerveau, firent que chez moi, le côté littéraire commença peu à peu de se développer, jusqu'à ce qu'enfin, il eût complètement repoussé l'autre. Ma vie entrait dans une phase nouvelle, en partie médicale, en partie littéraire, en partie philosophique. Ce sera l'objet du chapitre suivant.